Europe 1.
<t'en> 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire en évitant soigneusement de se la raconter. Et si on y parvient, c'est grâce à l'incommensurable modestie d'un homme qui pourtant pourrait se la péter. Il aime le patrimoine, il aime l'histoire, mais aussi, même s'il communique moins dessus, il aime par-dessus tout...
les aubergines bien huilées.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à aimer les légumes de saison. Vous voyez vraiment les doubles sens scabreux partout. Aujourd'hui pourtant... il va falloir prendre un peu de hauteur, parce que nous partons à la rencontre de trois grands reporters.
Oui Stéphane, je vous promets d'essayer d'être à la hauteur. Trois femmes qui font honneur au journalisme. Trois femmes qui, j'ai envie de dire, à l'instar de Clémentine Portier-Kaltenbach, n'ont pas hésité à enquêter sur des sujets de fond, parfois au péril de leur vie.
Enculer les mouches. C'est un empereur romain qui on doit cette expression, enculer les mouches.
Ah bon?
Parce qu'il le faisait.
Lequel?
Effectivement,
il le faisait
avec un micro-stylet, oui. Ouais, je vous assure, c'est une histoire vraie.
Hein. C'est une histoire vraie. Nos héroïnes du jour, elles ont vraiment quitté. Elles ont raconté le monde et pour ça l'ont parcouru dans des zones souvent agitées. A commencer par l'une des pionnières. Dans sa rédaction, l'histoire a retenu le nom de son collègue Albert Londres plus que le sien. Pourtant, André Violis a donné au journalisme toutes ses lettres de noblesse. Elle a interrogé les plus grands. S'est engagée à relayer ce qu'elle voyait sur les terrains de guerre, de l'Afghanistan à l'Indochine, et s'est engagée tout court aussi, vous verrez ça. Puis je vous raconte l'américaine Martha Gellhorn. Si son nom reste à son grand dame associé à celui d'Ernest Hemingway, avec qui elle a passé 5 ans de sa vie, elle est surtout une reporter qui a passé près de 60 ans sur le terrain. Et quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une grande reporter de notre temps.
Oui, elle aussi a parcouru le monde dans tous les sens, a décroché de nombreux prix, elle a même été otage en Irak. Je vous raconte le destin de Florence Aubenas.
Et avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. Elle est un peu notre otage, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Et oui, vous connaissez mon esprit de contradiction. C'est-à-dire que même quand vous parlez de belles figures féminines, eh bien moi je vais en sens inverse vous parler d'un homme, un tout petit censeur, un petit monsieur totalement oublié de nos jours assez justement. D'ailleurs Jean-Baptiste Suard, qui était critique littéraire et censeur de Louis XVI et qui brilla toute sa carrière dans l'art de faire les mauvais choix, mais de façon assez magistrale. Voilà, ce triste sire sur lequel je vais me pencher aujourd'hui.
Lui, il fait toujours les bons choix, en revanche, Stéphane. Oui. C'est David Castillo-Lopez. Oui. Bonjour, David.
Bonjour, David. Dans la mesure du possible. Je vous ai beaucoup parlé de succès au cours de cette année, des inventions qui ont marché. Là, on va une invention qui a foiré, qui est celle de l'aérotrain.
C'est quoi l'aérotrain?
Et l'aérotrain, voilà, on sent que...
Vous êtes dans une phase de la
loose. C'est pas votre
génération. Voilà, une phase de la loose, exactement. C'était un projet de transport en France qui a complètement échoué, mais qui était extrêmement prometteur, typique des Trente Glorieuses.
Un train qui aurait volé un petit peu.
Exactement, une sorte de truc à mi-chemin du train et de l'avion dont je vous parle.
Maintenant, on a aussi avec nous en studio, comme chaque jour, mon cher Stéphane, Olivier Pouls pour nous parler gastronomie.
Et si je vous parle du caviar de Méditerranée?
Alors, le caviar, ça, on n'a pas trop les moyens.
La poutarde, mais vous pouvez pas savoir ce que c'est.
La poutarde ou la moutarde.
J'ai rencontré un seul homme qui était fan de poutarde, c'est Nikos Aliagas, qui en mangeait le matin au petit déjeuner.
Mais moi, j'adore ça aussi.
C'est un truc de grec, non?
Non, pas du tout.
C'est bizarre, Aliagas et Berne.
Oui, on a la Grèce encore. Il y a Thomas Otto aussi, on peut faire la liste de tous ceux qui aiment la Grèce. Si vous voulez, mais c'est délicieux dans
c'est
les pâtes, dans les...
C'est un produit vraiment magique, un peu exclusif,
un peu aussi,
cher, mais
c'est pareil. Cher la poutarde.
C'est autour de 110-120 euros le kilo.
On n'en mange jamais
un kilo.
Un kilo, c'est très salé.
C'est 20 fois moins cher que le caviar.
Oui, c'est 20 fois moins cher que le caviar.
C'est du caviar alors. Il devrait communiquer là-dessus.
Surtout, on en utilise très peu.
On en met très peu. Eh bien, on va découvrir, et vous allez nous expliquer comment faire la poutarde ou on ne peut pas la faire nous-mêmes.
On ne peut pas la faire soi-même.
Mais comment la commander?
Voilà, on la prépare. Notamment avec des pâtes, c'est fantastique.
Des pâtes à la poutarde.
C'est merveilleux.
Enfin, c'est le moment que redoute Stéphane Bern et son attaché de presse, la séquence du quiz où les limites de sa culture générale sont soudain dévoilées. Par exemple, quand je demande quel petit génie a composé à seulement 4 ans son premier concerto et qu'il répond
Jordi ?
Non. F5-10, nous jouerons à Bern to be alive, on tentera de se reprendre. Mais tout de suite, découvrons notre première grand reporter du jour. Stéphane Bern nous raconte André Violis.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il était au Figaro, elle à la Fronde. Il est passionné par les vieilles pierres, elle, elle a couvert les zones de guerre. Ils sont deux modèles de journalistes différents, certainement, mais animés par la même envie de raconter le monde tel qu'il est. Ils se rencontrent aujourd'hui pour la première fois. Stéphane Bern nous raconte la grande grand reporter André Violis.
Pour comprendre qui est André Violis, le mieux est de laisser la parole à l'un de ses illustres collègues, dont le nom est lui davantage passé à la postérité, le grand reporter Albert Londres. Parmi les malandrins que nous sommes, une femme un jour demanda place. Elle s'appelait André Violis et les jours où la bascule était généreuse, elle pouvait peser 47 kilos. Du fait que cette femme voyageait sans malle et sans carton à chapeau, nous comprîmes tout de suite qu'elle avait la vocation. Elle circulait comme un seul homme dans les rues en révolution. Allons-nous chez un président de la République ? Nous la trouvions déjà assise dans un fauteuil en face de lui. André Jacquet est né en 1870 dans un milieu plutôt aisé. De son enfance, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que la petite fille dévore les romans de Jules Verne et rêve de contrées lointaines. Elle veut devenir marin, ce que son sexe lui interdit. Alors, adolescente, André s'oriente vers des études littéraires, effectue des séjours linguistiques en Angleterre et passe son bac en 1890, ce qui est extrêmement rare pour une fille. À la fin du 19e siècle, la France compte moins d'une trentaine de bachelières. En 1895, André se marie au journaliste Gustave Théry et signe de son nom d'épouse ses premiers articles dans la Fronde, quotidien entièrement réalisé par des femmes. Elle y traite de l'affaire Dreyfus, dénonce dans ses biais d'humeur la misogynie de la société et réalise ses premiers reportages. Les femmes qui arpentent seules l'espace public sont pourtant vues d'un mauvais œil. Mais rien n'arrête la journaliste qui est envoyée spéciale en Angleterre un jour et qui infiltre l'hôpital de la Salpêtrière à Paris le lendemain, déguisée en infirmière. Dans sa vie privée aussi, André se montre radicalement moderne. Elle divorce, puis se remarie en 1905 à l'écrivain Henri Dardenne de Tizac, alias Jean Violis. André Violis, qui signe désormais du pseudonyme de son mari, se consacre à un journalisme plus littéraire, publiant au passage un roman de jeunesse, Criquet, racontant le refus d'une jeune fille de se conformer au rôle social que son genre lui assigne. André a déjà plus de 40 ans, elle est la mère de 4 filles, mais sa carrière n'en est qu'à ses premiers balbutiements. La guerre qui éclate en 1914 lui donne l'occasion de s'engager sur le terrain. Elle devient infirmière et depuis le front fournit des reportages au Petit Parisien, l'un des 4 grands journaux français. Envoyée en Angleterre, elle parvient à rencontrer le Premier ministre, Lloyd George. À propos de cet entretien, largement repris dans la presse, la journaliste écrit à sa fille « Imagine-toi que je suis partout appelé Monsieur André Violis. » Pour ses confrères, il n'est même pas envisageable que la personne à l'origine d'un tel papier puisse être une femme. Après la guerre, André Violis intègre à plein temps la rédaction du Petit Parisien. Le journal tire alors à près de 2 millions d'exemplaires et va lui donner une très grande visibilité. C'est là qu'elle côtoie Albert Londres qui dit encore à son propos « Où André Violis nous faisait bouillir le sang, c'était aux télégraphes internationaux. Nous avions beau écrire à 100 à l'heure, ne pas déjeuner, sauter ensuite, sans avoir séché notre encre dans les autos les plus puissantes, promettre au chauffeur de payer généreusement les contraventions qui lui vaudraient d'un excès de vitesse, quand essoufflés, suants et affamés, nous arrivions au guichet, elle était déjà là. » Toujours élégante, on voit cette petite femme de moins d'1m60 en chapeau et en robe à motif au premier rang des bancs de la presse dans les grands procès d'assises ou derrière le ring des matchs de boxe. En 1924, elle couvre les Jeux Olympiques de Paris avant de sauter dans un train direction Rome pour enquêter sur l'inquiétante disparition de Matteotti, principal opposant à Mussolini. 2 ans plus tard, André Violis traverse la Russie et les républiques d'Asie centrale pour un premier grand reportage racontant le soviétisme. André voyage seule, mais n'a peur de rien. Toujours alerte et débrouillarde, elle est la première journaliste occidentale à arriver en Arménie après un tremblement de terre. En 1929, le roi d'Afghanistan est déposé par les tribus révoltées. André Violis rêve de ce pays depuis l'enfance, alors elle se démène pour tenter de s'y rendre. À ses enfants, elle griffonne ces quelques mots peu rassurants au dos d'une carte postale. Impossible d'aller en Afghanistan autrement qu'en avion. Les tribus en révolte massacrent les gens en chameau et à moto. De tout cœur à vous, maman. La reporter trouve un vol depuis Tashkent, en Ouzbékistan. C'est son baptême de l'air. L'avion manque de s'écraser dans une violente tempête de sable avant d'essuyer des tirs à l'arrivée à Kaboul. Rien qui soit de nature à empêcher André Violis de faire son métier. Ses photos et ses textes font la une du journal parisien. Ces grands reportages sont d'ailleurs si appréciés qu'ils sont édités en livre. On retrouve ainsi les aventures d'André en Inde, où elle interview Gandhi, au Japon, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Chine, où atteinte d'une grippe carabinée, elle semble au bord de la mort. Albert Londres envoie ce télégramme à sa rédaction « Violis foutu ». Mais la frêle journaliste est tenace, elle guérit. Son reportage le plus célèbre, SOS Indochine, paraît 3 ans plus tard chez Gallimard avec une préface d'André Malraux. Elle y dénonce, malgré les menaces et les injures, la pratique de la torture et les injustices commises par la France dans son empire colonial. Un an plus tard, en 1936, éclate la guerre civile espagnole. Pour André Violis, il ne s'agit plus seulement de témoigner, elle veut agir. Les événements qui se précipitent en Europe vont bientôt bouleverser sa vie. Dès le début des années 30, André Violis a tenu son lectorat informé de la montée du fascisme et du nazisme. Elle est partie sur le terrain, dans la Sarre, à Berlin, a recueilli des témoignages. En journaliste consciencieuse, elle a respecté son devoir de neutralité. Mais avec la guerre d'Espagne, la reporter ne supporte plus d'être une simple témoin. Les premiers mois, elle réserve ses prises de position à des journaux politiques engagés, comme l'hebdomadaire Vendredi, dont elle assure la co-direction. En 1938, elle fait un pas de plus, et après avoir quitté le Petit Parisien, elle rejoint la rédaction de Ce Soir, financée par le Parti communiste et dirigée par Louis Aragon et Jean-Richard Bloch. C'est aussi dans les colonnes de ce journal que Robert Capa et sa compagne Gerda Taro y publient leurs photos. André Violis peut continuer ses reportages en Espagne, à Vienne, où il assiste en mars 38 à l'entrée des troupes allemandes. Et en même temps, crier son indignation, collecter des fonds pour les blessés. Pendant la guerre, André se réfugie dans la Drôme, fait des allers-retours à Lyon pour des réunions clandestines et distribue des tracts. Elle écrit toujours, bien sûr, et dénonce dès 1943 la déportation des Juifs. À la fin du conflit mondial, alors qu'elle a déjà plus de 75 ans, l'infatigable reporter reprend du service. Elle couvre le procès de Nuremberg, puis visite les États-Unis pour le compte de Ce Soir et de l'Humanité. Sur un cliché, on la voit en manteau de fourrure manœuvrer une mitraillette à côté d'un GI lors d'une visite à une école d'infanterie. Là-bas, la vieille dame réalise même un saut en parachute. En 1947, elle est en Afrique du Sud, révoltée par l'apartheid, puis continue d'arpenter la planète, Roumanie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Côte d'Ivoire. Ses voyages, parfois très encadrés par le Parti communiste, ne remettent pas en cause l'admiration que ses confrères portent à son travail. Jury du prix Albert Londres, qui fut donc son collègue, membre du comité directeur de la Ligue des droits de l'homme, officier de la Légion d'honneur, André Violis est dans la profession, une véritable légende. Malheureusement, la mort la surprend en 1950, à l'aube de ses 80 ans, en pleine préparation de ses bagages pour la Corée, où une nouvelle guerre venait d'éclater. André Violis avait encore des choses, de celles qui font le monde, à raconter.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'André Violis, nous sommes avec celle qui la connaît peut-être le mieux pour l'avoir longuement étudiée. Bonjour Anne Renoux.
Bonjour.
Bonjour Anne Renoux, vous êtes docteur en histoire, conservatrice à la BNF et auteur de André Violis, une femme journaliste, paru aux éditions de l'Université d'Angers. Des recherches et des écrits qui, il faut bien le dire, nous ont permis de nourrir notre propre récit. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs ont découvert, un peu comme moi, retraçant sa vie, André Violis. Alors qu'on connaît tous Albert Londres, qui a un prix qui célèbre sa mémoire, pourquoi est-ce que André Violis est aussi méconnu?
Mais c'est un grand mystère. Quand on pense à la carrière qu'elle a eue, comme vous l'avez raconté, elle a travaillé pendant un demi-siècle dans la presse, elle a été envoyée dans une trentaine de pays, elle a publié un millier d'articles, elle a couvert 4 guerres, elle a dénoncé le fascisme, le nazisme, le colonialisme. Et pour autant, la profession l'a complètement oubliée.
C'est le pire, parce que j'ai envie de dire le grand public. On est grand public, on connaît tous Albert Londres, bon d'accord, mais dans le milieu des journalistes, on connaît normalement d'autres journalistes qu'Albert Londres. André Violis, même au sein des journalistes aujourd'hui, en école de journalisme, on parle beaucoup dans... Il y a une salle, par exemple, il y a des salles André Violis dans les...
Je ne crois pas.
Non, c'est quand même insensé au regard de ce que vous nous avez raconté, oui. Stéphane. Ce destin, c'est quand même fou. Et est-ce qu'il y a une part de machisme, le fait que ce soit une femme, alors qu'aujourd'hui, au contraire, on a envie de ressortir des héroïnes comme ça du journalisme.
Ou son engagement politique aussi.
Peut-être. Vous avez parlé du prix Albert Londres. Je pense que ça a aussi contribué à entretenir la mémoire d'Albert Londres. D'ailleurs, André Violis était membre fondateur du prix à la mort du grand reporter. Et c'est vrai qu'Albert Londres, il est mort tragiquement dans un accident au fait de sa carrière. André Violis, elle est mort à la fin de sa vie.
Elle aurait dû mourir avant, en fait. Ça, c'est Albert Londres qui aurait créé le prix André Violis. Quoi.
Exactement.
Ouais, t'es mieux.
Je l'ai évoqué, André Violis a fait ses armes à La Fronde, un quotidien qui était tenu par des femmes. Est-ce que son journalisme s'est révélé militant sur la cause des femmes ou ses combats étaient ailleurs? Elle accordait toujours une place particulière aux femmes, évidemment.
Oui, elle se demandait toujours où étaient les femmes, ce qu'elles faisaient, ce qu'elles pensaient. Quand elle va en Afghanistan, justement, elle se retrouve dans des foules exclusivement masculines. Elle se demande où sont les femmes. Quand le Front Populaire nomme deux femmes sous secrétaire d'État, elle court les interviewer. Elle a toujours ce regard posé sur les femmes, et ça depuis les débuts dans le métier. Et elle cherche, si dès qu'elle a l'occasion, elle essaye de dénoncer l'inégalité entre les hommes et les femmes, l'inégalité de salaire à travail égal, l'inégalité d'accès à l'enseignement. Enfin, dès qu'elle le peut, elle le fait. Mais c'est d'abord et avant tout par sa carrière, son propre exemple, qu'elle devient un peu une icône pour le mouvement féministe de l'époque. Et pour ces femmes militantes, André Violis est une pionnière et un exemple de femme indépendante économiquement et ultra compétente dans
sa profession. Voilà. Vous avez raison. Alors, on va continuer à parler de nos grands reporters et d'André Violis en particulier avec notre invitée Anne Renoux sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on rend hommage aux grands reporters de l'histoire. Vous connaissez tous Albert Londres, mais est-ce que vous connaissez André Violis? Moi, personnellement, je connaissais assez peu. Heureusement, on en parle aujourd'hui, on vous l'a fait découvrir avec Anne Renoux qui a publié André Violis, une femme journaliste. Alors, Stéphane l'a raconté, André Violis s'est imposé dans un monde d'hommes. Quand on voit qu'on l'appelle monsieur quand elle va interviewer le Premier ministre britannique, on imagine le niveau du machisme ambiant à l'époque. C'est vraiment une époque où une femme ne peut simplement pas tenir ce rôle-là. C'était inconcevable pour ces messieurs.
Non, en fait, il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le croit à cette époque dans la presse, dans le journalisme. Mais c'est vrai que c'est une profession essentiellement masculine. Et André Violis, c'est l'une des rares, sinon la seule femme grand reporter à l'étranger à ce moment-là. Mais elle-même n'a pas vraiment souffert de machisme. En tout cas, elle s'est très vite imposée. Et elle a surtout gagné la confiance de ses rédacteurs-chefs, et notamment celui du Petit Parisien, Élie-Joseph Bois, qui est resté, lui, à la tête du Petit Parisien pendant des années, comme André Violis, et qui lui a donné carte blanche.
Oui, elle était très vite très respectée, si bien que ses collègues masculins ne la moquaient pas ne se sentaient pas en rivalité avec elle.
Cela dit, dans le cas de tous ces hommes, leur vie personnelle impacte très peu. Elle, André Violis, elle est mère de 4 filles. Elle est divorcée, elle est mariée 2 fois. Sa vie personnelle n'est pas un long fleuve tranquille. Ça ne l'a jamais empêchée dans sa carrière. Pour cette raison, on imagine sa carrière a démarré quand même plus tardivement que pour d'autres.
Oui, peut-être, ça l'a un peu éloignée du journaliste d'actualité pendant une dizaine d'années, entre son divorce et la Première Guerre mondiale, mais très vite, elle a attrapé le virus du reportage et elle avait envie d'être là où l'actualité se passait.
Alors, elle a été évidemment journaliste neutre, impartiale, comme il faut, et puis elle a eu envie à un moment de passer à l'action, en devenant notamment, compagne de route du Parti communiste après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui l'a, entre guillemets, radicalisée
En fait, dans les années 30, elle dénonce la montée du fascisme et du nazisme, et elle est très sensible aux causes humanitaires, et elle fait partie de la Ligue des droits de l'homme, et tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine la heurte, et c'est pour cette raison qu'elle est très sollicitée par des associations, et notamment des associations de défense de prisonniers politiques, que ce soit en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, ou dans les colonies. Et une partie du Parti communiste à l'époque est très active sur ces questions-là. Donc, même avant la Seconde Guerre mondiale, elle est approchée, mais comme André Gide, comme André Malraux, et elle accepte de soutenir ces causes-là et d'aller sur ces terrains pour enquêter et pour dénoncer ces crimes.
Mais c'est toujours difficile de conjuguer journalisme et engagement politique. Ça l'a forcément exposé à des à des critiques. Comment c'était quoi sa déontologie, André Violis?
Oui, elle a été très critiquée, notamment par l'extrême droite à l'époque. Mais très tôt, elle a couvert, par exemple, en 1922, elle a couvert la guerre civile irlandaise. Et là, elle avait pris fait et cause pour les Républicains. Et son rédac-chef lui avait dit « Méfiez-vous des emballements ». Elle a toujours gardé cette cette leçon. Elle avait une forte conscience professionnelle. Elle avait très peur d'être manipulée. Et sa déontologie, c'était vraiment d'aller chercher la vérité, tout en sachant bien sûr qu'il n'y avait pas qu'une vérité, que la vérité était complexe, mais en tout cas de se donner les moyens de l'approcher. Et c'est par exemple quand elle va en Indochine en 1931, elle fait partie du voyage officiel du ministre des colonies Paul Reynaud, mais elle va se débrouiller pour sortir des sentiers du voyage officiel, pour rester plus longtemps sur place, pour faire une contre-enquête et essayer de découvrir ce qu'on avait caché au...
Oui, mais quand elle part ensuite en Roumanie, en Tchécoslovaquie, etc., encadrée par le Parti communiste, c'est plus difficile de sortir des sentiers.
C'est clairement. Mais là, c'est la fin. C'est après la Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est une vieille dame. Oui,
une dame âgée, qui
ne peut plus justement peut-être voyager aussi seule qu'avant. Et c'est vrai que c'est des voyages encadrés là par le Parti communiste. Pour autant, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'article stalinien.
Oui, mais elle avait une lecture critique de ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer.
Oui, elle était très prudente, et ça dès les années 30, parce qu'elle avait des confrères qui étaient allés, elle-même y est allée, elle a vu l'envers du décor. Oui. Cependant, elle avait aussi envie de croire à ses idéaux. Oui.
Albert Londres, on le sait, il avait un style à lui, court, vif, assez enflammé. Est-ce qu'André Violis avait une approche ou une façon de narrer les faits qui n'appartenait qu'à elle?
Oui. Son style est moins moderne, plus classique que celui d'Albert Londres. Elle décrit beaucoup les lieux, les ambiances, mais je pense qu'elle est plus proche des faits. Alors quand on compare ses carnets de notes avec ce qu'elle écrit, au fond, elle est très fidèle aux faits. Il paraît qu'Albert Londres, il recrée un peu.
Oui, non,
il s'est inspiré de beaucoup de faits pour en faire des personnages.
D'accord.
Plus...
Ouais.
Mais pour autant, ces articles sont très agréables à lire et très bien écrits. Hein,
on va pouvoir tous les découvrir parce que je crois que son œuvre vient de tomber dans le domaine public. Vous nous inviteriez à lire quoi d'abord pour découvrir André Violis et son œuvre?
Toute son œuvre n'est pas rééditée, mais il y a beaucoup de choses qui ont été numérisées, notamment par la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale Gallica. Quand vous tapez André Violis et Petit Parisien,
on trouve des centaines d'articles.
Ah oui, très bien.
Et vous trouvez aussi quelques livres numérisés. Et moi, je vous invite à lire une plaquette qu'elle a écrite, qui a été diffusée clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, qui s'appelle « Le racisme hitlérien, machine de guerre contre la France », dans lequel elle dénonce l'idéologie nazie, elle dénonce la déportation des Juifs, et tout ça avec beaucoup de raisons, d'humanité, et en s'appuyant sur des faits, on sent qu'elle l'écrit aussi en tant que journaliste.
Très bien. Mais merci beaucoup, André Renaud, d'avoir ressuscité pour nous André Violis avec, je rappelle votre livre, André Violis, une femme journaliste, paru aux presses de l'Université d'Angers. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle s'assure à chaque fois qu'elle ne tombe pas sous le coup de la censure. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous présentez un censeur censé censurer ce qui pouvait déplaire au roi. Son nom, c'est Jean-Baptiste Suard.
Oui, alors à quelque chose près, il me fait un peu penser à moi, ce gars-là, parce qu'il est victime de ses amis. Finalement, un petit peu comme moi dans ce studio, je suis toujours accablé, vraiment, je sors de là.
C'est ça, mais vous aimez ça.
Vous adorez ça.
Alors lui, dans sa jeunesse, Jean-Baptiste Suard, c'était plutôt un homme courageux. Par exemple, il avait été témoin dans un duel pour un de ses très bons copains. Le neveu du ministre de la guerre est tué dans ce duel. Et lui, comme il refuse de dénoncer son ami, il va être envoyé pendant 18 mois à la prison de Sainte-Marguerite. Ça vous dit quelque chose? Un an et demi de prison parce que vous refusez de témoigner contre un ami. Ça, c'est beau quand même. Hein. Mmh. Et puis par la suite, il entame une carrière de journaliste et de critique littéraire. Et il est élu à l'Académie française. Mais là encore, Louis XV annule sa nomination parce que Suard est copain avec d'Alembert. Alors à ce moment-là, il y a une espèce de coterie, si vous voulez. Le duc de Richelieu s'opposait à d'Alembert, s'opposait à l'encyclopédie. Donc là aussi, annulation de son élection à l'Académie française. Ça fait donc déjà deux fois que Suard a des gros problèmes à cause de ses amis. Bon, alors ses amis, je pense qu'il devait l'avoir un petit peu mauvaise. Finalement, il est élu à l'Académie et il est désigné comme censeur des pièces de théâtre, un poste qu'il va occuper jusqu'en 1790. Ce qui veut dire que pendant 16 ans, c'est de ce monsieur Suard que dépend la représentation ou non des pièces de théâtre. Évidemment, là, il marche sur des œufs parce que il a déjà eu assez de pépins comme ça, donc il ne veut surtout pas déplaire au pouvoir, il ne veut pas avoir d'ennuis dans sa carrière. Et voilà comment ce cher monsieur, dont probablement nul ici n'avait jamais entendu le nom jusqu'à présent, Jean-Baptiste Suard, eh bien, il va s'opposer, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais il va s'opposer à la représentation de La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Il faudra donc attendre le 27 avril 1784 pour qu'on soit donné la première représentation publique. C'était au théâtre de l'Odéon. Donc, c'est auparavant, six longues années se sont écoulées en lecture au censeur. Alors, ils ont dû l'entendre plusieurs fois, cette pièce, au protecteur, en supplique au roi lui-même, instance, démarche, remaniement, rien n'y fait. Les censeurs de Louis XVI, là pour le coup, ont bien senti ce qu'il y avait de trop libre, de subversif dans cette pièce qui remet en cause l'organisation de la société. Et du fait, dès le lendemain de la première représentation du mariage de Figaro, tout le monde dans Paris se répète les répliques les plus cinglantes. Hein, parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Alors ça, inutile de une réplique comme ça dans l'époque.
C'est très révolutionnaire. Non, le plus fou, c'est que Marie-Antoinette et son beau-frère, le comte d'Artois, ont joué après Beaumarchais.
Oui, c'est ce qui s'appelle danser sur un volcan, c'est ça.
Alors que la pièce avait été censurée, eux la jouaient à Versailles.
Quand même, Beaumarchais va faire 5 ans de prison pour avoir laissé penser que Louis XVI avait été un petit peu réticent vis-à-vis de sa pièce. 5 ans de prison, merci. Bon, alors, Suard, c'est le seul dont le nom, de tous ses censeurs, dont le nom soit parvenu jusqu'à nous. Pourquoi? Eh bien, notamment, parce que le jour de... Ça va vous parler, Stéphane, ça va vous toucher. Le jour de l'exécution de Louis XVI, le seul académicien qui se rend à la séance de travail et qui donc reçoit, touche tous les jetons de présence de l'ensemble de ses collègues. Qui est-ce? C'est Jean-Baptiste Suard. Ça, c'est beau, c'est noble, c'est élégant. Hein. Et puis, c'est pas tout. Suard se cache.
Vous voulez dire
qu'il
est allé au boulot le jour même?
Mais pour toucher les jetons de présence, il était tout seul. Il était tout seul.
Stéphane,
il voit pas où les quand vous êtes royaliste, vous n'allez pas au boulot le jour de la mort du roi, quoi.
Scandale,
Stéphane. Vous seriez allé, vous seriez venu faire l'émission.
Mathieu m'aurait attendu.
Tombe de haut. Ah non, mais c'est la dégringolade. Bon. Alors, il va survivre à la Révolution et sous l'Empire, Suard. Il est nommé censeur honoraire des théâtres, mais surtout secrétaire perpétuel de l'Académie française. Sous l'Empire. Et c'est à ce titre qu'il va procéder à l'épuration de l'Institut de France, de tous les éléments jugés indésirables. Donc, c'est lui qui dresse les listes de ceux qui vont être foutus dehors. Bon, alors, on récapitule. Censure des pièces de Beaumarchais, royaliste et pourtant seul académicien présent à l'Institut le 21 janvier 1793 pour toucher tous les jetons de présence. Il s'en met donc plein les poches. Dénonciateur à l'Académie sous l'Empire. Et pour finir, homme de lettres dont plus personne ne connaît la moindre œuvre de nos jours. Pourtant, l'un de ses tout premiers ouvrages écrits en 1754 nous en dit beaucoup sur la personnalité prometteuse de Jean-Baptiste Suard, puisque cet ouvrage avait pour titre « Lettres écrites de l'autre monde par l'abbé Desfontaines et Fréron ». Et si vous vous en souvenez, messieurs, une de mes premières chroniques dans cette émission, en début de saison, c'était sur l'abbé Desfontaines que Voltaire avait sauvé de prison parce qu'il avait été chopé avec un petit garçon et il risquait la peine de mort et il a aussitôt sorti de prison, il avait écrit un ouvrage pour débiter Voltaire. Donc, vous voyez, c'est comme si finalement les lâches ou les médiocres s'attiraient, s'aimantaient entre eux. Quand il fait un livre, Jean-Baptiste Suard, c'est sur Desfontaines et Fréron, les deux plus grands ennemis de Voltaire qui n'étaient pas des gabiens. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Incroyable.
Bon, enfin, moi, je retiens surtout que Stéphane Bern, écoutez bien, mesdames et messieurs, se serait rendu au boulot pour toucher les jetons de présence
le
jour de la mort de son roué. Et ben, moi, je dis vraiment, Rome n'est plus dans Rome.
Mais on n'était pas là en 1793.
Oui, mais qu'auriez-vous fait? C'est la question qu'on vous pose.
Voilà, on se pose tous la question qu'auriez-vous fait.
On ne sait pas ce que vous auriez fait,
mais déjà,
j'aurais
pas voté sa mort.
C'est vrai? Ah oui, ça, c'est déjà bien. Alors, qu'auriez-vous fait? On ne le sait pas. Mais ce que vous allez faire, c'est-à-dire perdre dans le quiz,
on ne sait pas.
À tout de suite pour le quiz.
Retirez ce que vous venez de dire.
On va voir.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il y a quelques mois encore, avant d'affronter Stéphane Bern dans l'épreuve du quiz, Clémentine Portier-Kaltenbach puisait dans sa culture encyclopédique pour lui lancer quelques piques bien senties, de sorte à le désarçonner avant même le début du combat. Désormais, elle est plus concise, elle va à l'essentiel. Clémentine, un mot pour Stéphane avant le quiz?
Mort au con.
Merci. Jouons à Bern to be alive. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à ses côtés quand il est dans l'erreur, puisque tout le monde le sera quand il aura raison. N'y voyez pas un message personnel, c'est une citation de Mark Twain. L'écrivain américain a été le premier à écrire un roman sur une machine à écrire. Vrai ou faux?
Ah oui, ça peut le faire, oui.
C'était un romancier très populaire, donc est-ce qu'il aurait pu bénéficier d'un des premiers prototypes de machine à écrire? C'est fin du 19e, vraiment, oui.
Moi, je dirais oui, ça me ferait
envie que ce soit le premier.
Mon intuition, c'est oui.
Vous avez gagné!
Quelle bonne intuition, c'est vrai, c'est ce qu'il a confié dans son autobiographie. En 1874, il achète une Remington pour $125. La machine à écrire va devenir culte pour bon nombre d'écrivains. Un an après l'avoir acheté, Mark Twain écrit à Remington pour se plaindre, car il passe son temps à jurer à cause de ses dysfonctionnements. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Lequel de ces mots d'un autre temps désigne un homme qui fréquente les prostituées? Un gargouilleux, un houillé ou un grippe-minot?
Ça, c'est une question pour Clémentine. Elle adore ces expressions anciennes.
Oui, ça, c'est vrai. Mais alors j'aime bien le houillé. Le côté aller à la mine, la soute du bateau. Enfin, tu vois, qui est bien sale comme ça.
Ça vous plaît.
Donc, comme je ne connais pas.
Ce quiz révèle beaucoup de nous, surtout de vous.
Grippe-minot. Ah, grippe-minot est pas mal non plus.
Il faut faire un choix.
Oui, je veux dire houillé quand même.
Vous dites houillé parce que c'est votre intuition première. Oui. Vous avez envie que ce soit sale.
Oui. Vous avez envie que ce soit sale.
Gagné.
Bravo, vous avez raison. Plaisantie. Mettons-nous dans l'ambiance. Ah, c'était le pari qu'on aimait. Oui, un houillé, c'est quelqu'un qui fréquente les loueuses de charme, mais c'était aussi un proxénète. Un gargouilleux, vous savez ce que c'était un gargouilleux?
Un gargouilleux, est-ce que c'est pas simplement
il avait des problèmes
de gargouille, de transit, vous pensez?
Non, est-ce que c'est pas celui qui cure les fontaines ou qui s'occupe des non?
Ça aurait pu, c'était une bonne. C'était un gargouilleux, c'était quelqu'un de très laid.
Tête de gargouille, oui, c'est mignon.
Et un grippe minot alors, parce que moi j'aurais répondu grippe minot.
Est-ce que c'est pas simplement
grippe minot, vous comprenez?
Non, voilà, c'est ça. Bien sûr, ils ont joué sur cette homonymie. Est-ce que c'est pas simplement un tire-laine, c'est-à-dire un petit pickpocket?
Ah bah c'est peut-être pas loin de ça alors.
Moi j'ai
c'est
un voleur.
C'est pas un pickpocket, c'est un homme rusé et hypocrite. C'est aussi le nom d'un chat dans Le Chat, la Belette et le Petit Lapin de La Fontaine.
Mais oui, bien sûr.
Question numéro 3 pour l'instant. Très
pas mal,
gros niveau
dans
ce
quiz. Je
suis
assez contente de moi, là, je dois dire. Je pourrais avoir un quart de point, là.
Ah bah non, vous n'avez pas donné de réponse supplémentaire.
J'avais jamais entendu aucun de ces trois mots.
Oui, mais enfin, vous y êtes allé au hasard. Vous avez,
non,
vous aviez
pas
envie
du tout,
que ce soit
pas
quelque
du
chose
tout.
De
j'ai
sale.
Dit le houillé, c'est vraiment, c'est celui qui va à la mine, quoi, au charbon, dans les profondeurs.
Oui, on a compris. On a l'image. Oui, on voit un endroit obscur. Mais bref, question numéro 3. Stéphane, c'est pour vous. On sait que vous aimez, Stéphane, mais vous aimez aussi la série des Martines, je suis sûr. La série des Martines, le premier Martine date de 1954. C'est Martine à la ferme. Puis viendront Martine fait de la bicyclette, Martine et son ami le moineau, Martine découvre la musique et Martine se présente à la mairie de Lille. Eh bien, Elton John est fan de Martine. Il a des originaux chez lui. Vrai ou faux? Vous n'êtes jamais allé chez Elton? Entre Lord.
Est-ce que vous avez lu, quand vous étiez petit, Stéphane, les clubs des cinq ou les clans des... Bien sûr.
J'avais le club, le club des...
Et le clan des sept aussi.
Le clan des sept aussi.
Moi, je préférais le clan des sept.
Mais
est-ce que vous les avez gardés ou pas? Moi, je pourrais pas jeter un club des cinq. J'y suis très attaché.
Je crois qu'on me les a...
Vous les avez volés?
Non, jetés. à la fin de mon enfance.
Et Martine, les dessins sont très délicieux. Ouais. C'est vraiment une
parce que
acidulée.
Vous avez vu, il a une maison à Nice.
Oui, qui est pas mal.
Bon, à mon avis, oui.
Vous verriez bien des Martines dans
la déco. Tout à fait, c'est comme les albums du Père Castor, on les garde.
Si c'est pas le cas, si non è vero, è ben trovato. Voilà.
Alors découvrons la réponse.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu. Mais je vais vous dire, Stéphane, parfois je suis dur avec vous, mais là j'aurais répondu exactement comme vous. Parce que pour moi, Elton John collectionnant des Martines, ça faisait sens.
Oui, tout à fait.
Et en même temps, cette question existe pour une bonne raison, c'est qu'une autre star, immense star de la pop, était fan de Martine, complètement improbable. Quoique, quand on y réfléchit, ça fait presque froid dans le dos. Michael Jackson, un demi-point pour Clémentine, un demi-point pour Clémentine. Michael Jackson, il avait même rencontré à plusieurs reprises Martine. Je crois qu'il préfère les petits Martins. Alors, rencontré à plusieurs reprises Marcel Marlier, le dessinateur qui est mort en 2011 à 80 ans. Michael avait proposé d'acheter les originaux à des prix exorbitants. Eh bien, Marcel a refusé car il trouvait que c'était indécent. Michael avait proposé à Marcel de lui faire une pochette de disque, imaginez. Thriller, mais version Martine. Marcel a refusé aussi parce qu'il fallait aller plusieurs mois aux États-Unis. Gloire à Marcel Marlier
bravo,
qui a dit
ça
non
c'est une très belle
à Michael
histoire.
Jackson. Ouais. Question numéro 4 pour vous. Le 10 mai 1774, à 15h15, que se passe-t-il déjà? Est-ce que vous le savez?
Le 10 mai 1774.
Ça pourrait être l'envol du premier ballon dans la cour de Versailles, non?
À 1515.
Ah non, c'est plus tard, c'est 1580.
Alors, 1515,
le 10 mai 1774, à 15h15.
Oui.
Un événement très important. Enfin, vous les royalistes, on se réveille.
Il y a le mariage, la mort de Louis XV.
Un demi-point pour Stéphane,
bravo.
Déjà.
Ouais.
Mort de Louis XV. Hein, voilà. Le chambellan porte un chapeau à plumes noires, il ouvre la fenêtre et s'écrie « Le roi est mort ». Puis change de chapeau, celui à plumes blanches, et dit « Vive le roi ». Et puis c'est l'embaumement. Le cœur du défunt est momifié et porté dans une église. Vrai ou faux?
Non, alors là...
Elle a écrit un livre là-dessus, mais
en plus de ça, si vous voulez, on sait bien que le malheureux Louis XV avait la petite vérole, son corps s'est décomposé à vitesse grand V.
Normalement, c'est ce qu'on faisait, mais là, on n'a pas pu
l'embaumer, son corps était déjà quasiment liquide et en putréfaction 48 heures après sa mort. Et nul n'a suivi son convoi. Non, il était très mal aimé au moment de sa mort et surtout, chacun fuyait les vapeurs méphitiques qui émanait de sa dépouille.
Les vapeurs méphitiques.
Vous avez gagné.
C'est une réponse parfaite, suivie de son explication rigoureuse. C'est faux, évidemment. Vous l'avez raconté devant l'état du corps. Les médecins refusent. Louis XV est mort de la petite vérole, croûte, gangrène, infection. Ça vous a plu, vous en voulez encore tout sur Louis XV ce soir avec Stéphane Bern sur France 3, 21h05. C'est Secret d'Histoire. N'ayons pas peur de dire, il n'y a pas mieux sur le service public. Bravo Stéphane, mais vous avez néanmoins perdu. Victoire de Clémentine Portier, Kelton Maclav.
Elle me bat de...
Et oui, parce qu'il y a eu des demi-points qui ont été accordés comme ça.
C'est Elton John qui m'a perdu.
Elton John vous a perdu. Goodbye, Candle in the Wind.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre. 2 heures où l'histoire fricote gaiement avec la bonne humeur et où 3 personnages de l'histoire se rencontrent pour la première fois.
Oui, et cet après-midi, Stéphane, 3 drôles de dames, 3 grands reporters.
Après André Violis, je vais vous parler d'une des journalistes les plus respectées du XXe siècle. De la guerre d'Espagne au Vietnam, l'américaine Martha Gellhorn a couvert tous les grands conflits. Elle a aussi été la compagne d'Ernest Hemingway. Et quant à vous, Mathieu, vous aviez envisagé d'abord, parmi les grands reporters contemporains, de nous brosser votre autoportrait à 99% vrai. Mais qu'est-ce qui a retenu votre bras?
Eh bien, une raison simple, Stéphane, un peu idiote, ma modestie atavique. Bien sûr, mon CV me l'aurait permis. Après tout, n'est-ce pas moi qui ai réalisé à ce micro le portrait de Tarkan, la pop star turque oubliée. Néanmoins, j'ai décidé de vous parler plutôt de Florence Obna, qui, elle aussi, ma foi, quelques beaux reportages à son actif.
Oui, sans oublier nos chroniqueurs et nos chroniques ici. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines De l'aérotrain.
De l'aérotrain, qui est un truc que personne, que tout le monde a oublié aujourd'hui, mais qui était le futur du transport dans les années 60. Échec absolu. Et donc, c'est une histoire un petit peu triste, mais je vous la raconterai quand même.
Et en revanche, ça, c'est un succès.
Oui.
La Poutargue.
Ouais, je vous emmène de découvrir les saveurs assez confidentielles d'un produit rare et assez prestigieux, que tout le monde ne connaît pas, mais qu'il faut, je pense, avoir goûté au moins une fois dans sa vie. La Poutargue, je vous dirai ce que c'est, puis je vous dirai comment préparer ce qui est le grand classique, les fameuses pâtes à la Poutargue. Un moment divin.
Et Olivier Pouls donc nous racontera ça en fin d'émission, mais en toute fin d'émission, ce sera le mot de la fin, le mot de la fin de Stéphane. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Oui. Aujourd'hui, Stéphane.
C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de lune de miel. Je ne sais pas si autour de la table, il y a des futurs mariés, mais on va voir. Mais on
ou des futurs ex-mariés.
Sur l'après-mariage. Pourquoi est-ce qu'on dit lune de miel? Ça désigne juste ce qui se passe après le mariage.
Mm-hmm. Rien à voir avec les abeilles.
Bon, c'est le moment où on arrête de butiner.
Ça dépend qui. Et tout de suite, découvrons sans plus attendre la vie, ou plutôt les mille vies de celle qui fut une légende du grand reportage. Stéphane Bern nous raconte Martha Gellhorn.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Elle fait partie de ces femmes qui mériteraient d'être dans le journal de Claire Chazal. Comme elle, elle était journaliste, mieux qu'elle. Elle était grand reporter qui a couvert de nombreuses guerres. Dans le journal, elle l'était évidemment, et dans le monde entier aussi. Stéphane Bern nous raconte Martha Gellhorn.
Direct, sarcastique, drôle, Martha Gellhorn balance cette question à qui la renvoie à sa relation avec l'écrivain Ernest Hemingway. Pourquoi serais-je une note de bas de page dans la vie de quelqu'un d'autre ? Profondément agacée d'être réduite à une petite période de 5 ans de sa vie, le temps de son mariage tumultueux avec l'auteur de « Pour qui sonne le glas », Martha Gellhorn devait sans cesse rappeler ses 60 ans de carrière exceptionnelle en tant qu'écrivaine et reporter de guerre. « Ma vie commença en février 1930 », écrit la journaliste. Elle a alors 22 ans et vient de poser ses deux petites valises dans la couchette 3e classe d'un transatlantique de la Holland America Line. Martha a échangé son billet contre la promesse d'un article pour le magazine publicitaire de la compagnie maritime. Dans ses bagages, une machine à écrire Underwood, petit format, et dans ses poches, $75 environ. Un an plus tôt, Martha, née à Saint Louis dans le Missouri, a claqué la porte du prestigieux collège de Pennsylvanie contre l'avis de ses parents, dont les opinions progressistes ne vont pas jusqu'à l'indulgence de voir leur seule fille arrêter ses études. Mais elle a hérité de leur caractère frondeur et de leur forte sensibilité aux injustices du monde. Son apprentissage, elle veut le faire sur le terrain. Sa vocation, c'est d'écrire. Et le journalisme est un bon moyen de s'exercer tout en gagnant sa vie. Au culot, Martha a déjà décroché un stage au New Republic, un hebdomadaire réputé de New York, et une petite expérience de reporter, rubrique chien écrasé pour un autre journal. Mais elle voit plus loin. Elle veut voyager. Alors première étape, Paris. En quelques mois, elle apprend le français, l'allemand et l'espagnol, voyage un peu partout et vend des papiers à l'agence United Press. Sur le vieux continent, elle rencontre aussi Bertrand Jouvenel, le beau-fils de l'écrivaine Colette, avec qui elle a d'ailleurs eu, petite note de bas de page, une aventure.
Ah.
Leur relation dure 4 années, pendant lesquelles le jeune homme déjà marié promet de divorcer. Au péril de sa vie, Martha avorte à 2 reprises. En 1934, après 3 ans d'absence, la reporter est de retour aux États-Unis. Le pays s'est enfoncé dans la crise depuis ce jeudi noir où 5 ans plus tôt les cours de la bourse se sont effondrés. Pour le compte du nouveau président, Frank Delano Roosevelt, Martha participe à une enquête géante sur les conditions de vie des citoyens américains les plus touchés par la crise. En Caroline du Nord, dans les villes d'une industrie textile ruinée, elle rencontre les hommes, les femmes, les enfants abandonnés à la misère. Dans l'Idaho, Martha Gellhorn incite des ouvriers à mener une action coup de poing contre une agence du gouvernement et se fait licencier. Mais la première dame, Eleanor Roosevelt, l'invite à la Maison Blanche et lui présente Herbert George Wells. Le grand auteur de science-fiction préface le roman de Martha, inspiré de ses reportages sur la Grande Dépression, et affirme « Je la tiens pour un écrivain véritablement remarquable ». La même année, 1936, c'est un autre grand écrivain que Martha rencontre fortuitement, un soir de décembre dans un bar de Floride. Ernest Hemingway donc. Il est déjà célèbre. Il lui raconte ses aventures passées en Espagne et son prochain départ. Sous le charme, la journaliste décide de l'accompagner. Quelques mois plus tard, Martha fait le voyage financé par l'argent gagné des articles sur des produits de beauté qu'elle écrit dans Vogue. Dans le Madrid dévasté de la guerre civile, la jeune femme apprend à évaluer la proximité d'un obus à son bruit et à survivre dans la poussière des débris qui envahit sa chambre à l'hôtel Florida. Elle raconte ce qu'elle voit dans le magazine Colliers et devient vite officiellement correspondante de guerre. Son chemin est tracé, elle sera désormais sur tous les fronts. En 1938, en Tchécoslovaquie, après l'annexion des Sudètes par Hitler. En Finlande, après l'invasion soviétique. Entre Hong Kong et Canton, suivant le conflit sino-japonais. Dans les Caraïbes, où elle traque les U-boots, les sous-marins allemands qui attaquent les convois de ravitaillement en partie des États-Unis vers l'Europe. En 1940, Martha épouse Hemingway. Entre deux voyages, elle le rejoint dans leur propriété de Cuba. Pressée de repartir, la reporter fait face à l'hostilité de son mari. Est une correspondante de guerre ou une femme dans mon lit? En 1945, Martha réglera la question en demandant le divorce. Mais pour l'heure, le débarquement allié se prépare en Europe. In extremis, Martha embarque sur un cargo plein d'explosifs qui fait cap sur l'Angleterre, où elle arrive à la veille du D-Day. La reporter réussit alors à s'infiltrer dans un navire hôpital au prétexte d'interviewer des infirmières. À bord, elle s'enferme dans les toilettes et attend le départ. Le 7 juin, elle est alors la seule femme à débarquer à Omaha Beach. Quelques mois plus tard, elle pénètre dans le camp de Dachau, tout juste libérée, et elle découvre et décrit toute l'atrocité des horreurs nazies. Cette guerre, bien sûr, n'est pas la dernière. Partout où elle est, Martha Gellhorn la suit. Elle est au Vietnam en 66, en Israël l'année suivante pour couvrir le conflit des six jours. Le reste de son temps, elle le consacre à l'écriture de fiction et à des voyages personnels à Moscou, en Afrique, d'ouest en est, le long de l'équateur. En 1988, au Kenya, la journaliste est victime d'un viol sur une plage isolée. Martha Gellhorn a alors près de 80 ans, mais elle a encore le courage de prendre sa voiture et de conduire seule jusqu'à la ville la plus proche pour y être soignée. La peur ne vous fait vraiment du mal que si elle vous amène à changer votre conduite. Ça ne sera pas mon cas, explique-t-elle, refusant de quitter la maison qu'elle occupe sur la plage. Après un dernier reportage au Brésil, à 87 ans tout de même, Martha Gellhorn se suicide en 1998 dans sa maison de Londres pour ne pas subir la lente déchéance qui ne lui permet déjà plus ni de lire, ni d'écrire. À propos de son œuvre, un critique écrira « Elle n'est pas une écrivaine de voyage, ni une journaliste, ni une romancière. Elle est tout cela à la fois, et l'une des plus éloquentes témoins du XXe siècle. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de la grande, grand reporter Martha Gellhorn, nous sommes avec un grand écrivain, Alexis Génie. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Oui, nous sommes très heureux de recevoir Alexis Génie. Vous êtes écrivain, vous avez reçu le prix Goncourt en 2011 pour l'art français de la guerre, paru chez Gallimard. Et vous êtes aussi un grand admirateur de Martha Gellhorn, à qui vous avez consacré plusieurs articles enflammés. Martha Gellhorn est relativement méconnue en France, au mieux. On la connaît comme femme de, et vous, vous la décrivez comme une meilleure amie. Depuis quand l'est-elle et depuis quand vous accompagne-t-elle dans votre vie ?
Oh, depuis pas si longtemps. C'est grâce aux éditions du Sonneur qui ont réédité ces textes, ces articles. Il y a plusieurs volumes. Et comme les éditrices du Sonneur sont des amies, quand elles dénichent quelque chose de bien, elles me disent « Ah, tu devrais lire ça !» Je commence à lire et là, coup de foudre immédiat, les petites maisons d'édition font des découvertes extraordinaires.
Coup de foudre, pardon, sur sa vie ou sur sa plume là ? C'est son style qui vous a séduit ou son histoire ?
C'est un ensemble. En fait, on peut pas dissocier là pour le coup l'auteur de l'œuvre. Ouais. C'est à la fois sa façon de raconter, sa façon extrêmement précise, extrêmement touchante, extrêmement humaine de raconter. Et puis ce personnage incroyable. Voilà, j'adore l'anecdote de la femme qui se cache dans les toilettes pour aller au débarquement. C'est incroyable. Enfin, vraiment, rien ne l'arrête jamais, ni les situations, ni les hommes. Et quand elle veut faire quelque chose, elle le fait.
Pour vous, comment est-ce qu'elle appréhendait son métier de journaliste?
Ça, c'est un peu mystérieux parce que elle est assez atypique, même si elle est dans une tradition des grands reporters. Elle a un petit côté Albert Londres, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller voir tout partout et de le raconter. Alors du coup, on se demande si c'est une romancière, une journaliste. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est tout à la fois. C'est une sorte de posture littéraire particulière où elle va dans le monde avec sa machine à écrire, elle regarde tout et elle écrit tout, elle raconte tout. Et moi, ça me fascine. C'est une sorte de projet littéraire global.
Ah oui, vous écrivez entre 1930 et 1990. Cette femme a fait et vu tout ce qu'on pouvait faire et voir en ce siècle agité, mais surtout, elle l'a écrit. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est quand même, il y a eu tant de biopics qui ont été faits au cinéma sur plein de gens beaucoup moins intéressants que Martha Gellin. Enfin, sa vie, elle est dingue. Comment ça se fait que personne ne se soit emparé, évidemment?
Allez, on va faire une explication féministe. Hein, c'est parce que c'est une femme peut-être.
Mais
c'est vrai qu'en plus c'est une femme qui a une prestance incroyable. Ouais. Les photos d'elle, c'est des photos de stars de cinéma hollywoodien. Ouais. Je sais pas.
C'est un mystère.
Peut-être il y aurait trop d'épisodes pour un seul film. Quoi. Ouais. Il faudrait faire une série.
Oui, une série. Ben, c'est la mode.
Vous décrivez son livre Mes saisons en enfer où elle raconte ses pires voyages comme des chefs-d'œuvre d'ironie impolie et d'autodérision. C'est vrai qu'elle arrivait à mettre de la distance, de l'humour même, avec ce qu'elle écrivait, même au cœur des pires événements.
Ah oui. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors, elle a pas vraiment participé au débarquement, parce qu'elle est arrivée le lendemain. Mais bon, elle a vu des choses horribles. Alors, c'est drôle parce que Hemingway, il était encore marié à l'époque. Hemingway voyait tout ça à la jumelle d'un bateau au large. Et elle est allée sur place. Mais enfin, elle s'occupait du retour des soldats blessés, des choses comme ça. Enfin, des choses très humaines. Et à un moment donné, là, elle a une phrase qui est fabuleuse où elle dit, il y a des moments où c'est tellement terrible ce qu'on voit. On est tellement petit et impuissant devant les choses. Que la seule solution, c'est d'éclater de rire. Et il y a ça, je crois, c'est cette idée qu'il y a une sorte, le rire, c'est la politesse du désespoir. Il y a un peu de ça chez elle, mais c'est une façon de tenir, en fait, de rire.
Est-ce que vous diriez, pour paraphraser, est-ce que vous diriez que Martha Gellin a l'art d'écrire la guerre?
Alors, oui, mais alors. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le recueil de ces articles de guerre, en français, c'est La guerre de face, ça s'appelle. Mm-hmm. En anglais, c'est The Face of War. Le visage de la guerre. Oui. Et en fait, elle écrit le visage de la guerre, le visage des gens, Elle aimait pas spécialement la guerre. Mais elle allait voir les gens qui la faisaient. Et avec beaucoup d'empathie, beaucoup de pertinence, de délicatesse, elle raconte ce que ces gens vivent. Et ça, en effet, c'est une façon de dire la guerre. Mm.
Vous soulignez que par les yeux sensibles de Martha Gellin, on explore un monde encore divers où la nature est belle, encore accueillante. Quel lieu, par exemple, vous avez en mémoire que vous a permis de découvrir Martha Gellin?
Il y a beaucoup de choses dans les Antilles. Elle a beaucoup aimé les Antilles. Et des Antilles anciennes, des Antilles d'il y a un demi-siècle, Cuba, etc. Donc, elle a une passion pour les îles. Elle a une passion pour la natation. C'est-à-dire qu'elle va nager. Elle descend à la plage pour aller nager. Elle a fait ça toute sa vie. Elle s'est débrouillée pour être dans des endroits où il y avait des plages où aller nager. Et c'est des plages qui, à l'époque, étaient désertes. Les Antilles, en 1940, on pouvait trouver des endroits fabuleux. Il y a ça. Et il y a aussi l'Afrique, la profusion naturelle de l'Afrique dans les années 60. Enfin, voilà. C'est des mondes un peu disparus quand même. Voilà. La population a s'est un peu agrandie. L'urbanisation a fait ses dégâts. Donc, elle raconte ça avec bonheur. C'est des grands moments d'eau bleue et de plage où elle nage.
Ce qui frappe aussi chez Martha Gellin, c'est son côté femme forte, celle qui n'a jamais choisi de trancher entre correspondante et femme, celle qui a osé aussi quitter Hemingway, la seule de ces quatre femmes. C'est ça aussi qui la rend admirable.
Ouais, faut dire qu'Hemingway, il était pas hyper délicat avec ses femmes, avec elles. Bon, c'est ce que Stéphane a dit là. Mmh. Ouais, vous êtes une correspondante de guerre ou une femme dans mon lit. Enfin bon, il sait parler aux femmes. Mais ouais, complètement. Mais alors, moi, ce qui me fascine en effet, c'est ce côté femme forte qui, alors bon, ça fait battre mon petit cœur. Cette femme qui est dressée, qui est énergique, qui décide, qui y va et qui ne fléchit jamais, sauf pour rire, comme je disais tout à l'heure.
C'est ce qui nous sauvera. Ouais. Merci beaucoup, Alexis Génie, d'avoir redonné toutes ces lettres de noblesse à Martha Gellin. Pour les curieux, on vous recommande chaudement la lecture de ses œuvres, parues pour la plupart aux éditions du Sonneur. On rappelle aussi à nos auditeurs que votre dernier livre, La beauté dure toujours, est paru chez Gallimard. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Alexis Génie.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les grands reporters de l'histoire. Après André Violis et Martha Gellin, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une journaliste de choc toujours en activité, Florence Aubenas.
Oui, quand on se penche sur la biographie de Florence Aubenas et surtout sur ses reportages, on réalise que journalisme est vraiment un mot parapluie sous lequel on regroupe des métiers assez différents en termes de risques, puisqu'en effet, au sens du Larousse, est autant journaliste celui qui enfile un gilet pare-balles avant d'entrer dans la bande de Gaza pour couvrir l'intifada, que celui qui se chauffe la voix avant un carillon dans un studio du 15e arrondissement de Paris.
Ah, il est 16h sur Europe 1.
risque de se retrouver un couteau sous la gorge, l'autre risque au pire un chat dans la gorge. Florence Aubenas appartient clairement à la première catégorie de journalistes, ceux qu'on appelle les grands reporters. Qu'est-ce qui peut bien pousser une jeune journaliste à se tourner vers les reportages de terrain, parfois dangereux, toujours éprouvants, alors qu'elle pourrait se la couler douce au sein d'une belle rédaction climatisée avec une rutilante machine à balisto qui, pour 90 centimes d'euros, vous délivre ses merveilles à toute heure de la journée?
Chelou,
se dit Stéphane Bern, dans le contrat duquel il est stipulé noir sur blanc qu'il ne peut évoluer que sur moquette. Florence Aubenas, c'est d'abord...
Ah bah oui, c'est le minimum.
Non, c'est le minimum. C'est d'abord une certaine conception du journalisme. Mon boulot, dit-elle, c'est de faire avec le réel, de voir les choses à hauteur d'être humain. Et le réel, Florence, elle se les coltiner sans faire semblant, parfois au péril de sa vie, puisque si son nom est devenu célèbre, c'est qu'on l'a entendu au JT pendant plusieurs mois courant 2005. Tout le pays retenait son souffle. Florence Aubenas, journaliste de Libération, avait été enlevée à Bagdad en compagnie de son guide. Elle sera otage en Irak pendant 5 mois qui nous paraîtront des années. Vous imaginez, 5 mois à Bagdad, Stéphane, forcément elle n'a qu'une idée en tête.
Être bronzée.
Mais non, être libérée, Stéphane, libérée. Les ravisseurs manient tantôt le bâton, faites ceci sinon on vous égorge, tantôt la carotte pour vous faire enregistrer les vidéos qu'ils envoient à votre gouvernement, expliquera ensuite Florence. Dans mon cas, pour que je me prête à l'enregistrement, leur grand argument était « Quand tu seras libéré, tu écriras un livre et tu deviendras plus célèbre que Lady Di. »
Ah, génial !
Ah non, non, sur vous, ça aurait marché, Stéphane. Mais Florence, elle s'en fout d'être plus célèbre que Lady Di. Elle veut juste recouvrer sa liberté. En France, les soutiens se multiplient, des concerts sont organisés, souvenez-vous, notamment un à l'Olympia avec Patrick Bruel. L'idée était peut-être qu'en entendant Patrick chanter en arabe, les terroristes se rendraient. Je sais pas, ils n'en furent rien. Des lâchers de ballons furent également organisés, sans effet là aussi sur le moral des terroristes. On se disait peut-être, oh, ça va les émouvoir, tous ces jolis ballons. Non. Les mois passèrent, on colla un portrait géant de Florence sur la façade de l'hôtel de ville à Paris. Ses collègues écrivirent une tribune bouleversante dans la presse demandant sa libération immédiate, arguant du fait qu'elle était, je cite, une fille drôle et sympathique au talent immense. Sous-entendu, si elle avait été renfrognée et pas douée, vous auriez pu la garder. Et enfin, le 12 juin au matin, un communiqué du ministère des Affaires étrangères annonce la libération de Florence et d'Hussein, son fixeur. Soulagement général doublé d'une certaine excitation. Patrick Bruel propose au Quai d'Orsay de l'attendre au pied de l'avion avec sa guitare. Il pourrait lui chanter. On lui dit non, Patrick, ça ira. Elle a déjà beaucoup souffert là-bas, tu sais. Hélas, après 157 jours de captivité, Florence n'est pas au bout de ses peines. En rentrant de Bagdad, son avion fait escale à Chypre. C'est la dernière épreuve de l'aventure pour Florence, l'équivalent de l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta. À Chypre, donc, on lui colle une réunion avec Philippe Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères. Le coup de banc, Boubou, tu viens te taper 157 jours de captivité, tu n'as qu'une envie, serrer tes proches dans tes bras. Eh bien non, tu dois te coltiner 5 heures de conversation avec Douste-Blazy dans un terminal chypriote. Comme dirait David lorsqu'il découvre que quelqu'un a tapé dans son viandox, la vie est une tepue. Une fois l'épreuve Douste terminée, il reste à Florence l'épreuve de la conférence de presse où elle raconte les conditions de sa détention. Alors là, peu de surprise, on se doutait bien que c'était pas un Sofitel de Tunis avec buffet à volonté et musiciens locaux. On découvre que ses ravisseurs lui interdisaient de parler, de marcher plus de 24 pas par jour. Pour vous situer, 24 pas par jour, c'est le bilan santé iPhone de Stéphane, un dimanche à Tiron-Gardet. Hein, transat, piscine, piscine, transat, piscine, 24 pas.
Pas de piscine.
Oui, mais bientôt. Concernant la libération de Florence, un doute persiste. La France a-t-elle versé une rançon ? Non, Stéphane, enfin la France ne verse jamais de rançon. Si on commençait à dire qu'on verse des rançons, ça pourrait encourager les deux groupes terroristes à demander des rançons. La version officielle est donc pas de rançon. Mais voilà, il y a François Hollande.
Yeah.
Qui, dans le livre rudement bien nommé « Un président ne devrait pas dire ça », affirme que la France a bien payé une petite rançon. Un article du Times parle même de 15 millions de dollars demandés par les ravisseurs et de 10 petits millions versés. Alors bien sûr, cet épisode de la détention en Irak est important, mais il ne faudrait pas réduire Florence à ça. Sa carrière est extrêmement riche. Pour résumer, c'est simple, elle a été partout. Banlieue chaude, pays en guerre, commissariat, tribunaux, usines en grève. Elle va là où personne ne veut aller. Elle aurait pourtant pu être auteure de bande dessinée. Sa première passion, Florence Aubenas, née le 6 février 1961 à Bruxelles, d'une mère journaliste, fondatrice d'une revue féministe. Son père, lui, est diplomate. Petite, elle dévore donc des BD, puis se lance dans des études littéraires avant d'intégrer le CFJ, Centre de formation des journalistes. C'est là qu'elle apprend ce qui est l'alpha et l'oméga de toute carrière journalistique, le souci de la précision. Ce souci qui anime les meilleurs journalistes historiquement vôtres, comme Olivier Pouls.
Le terme pomme dauphine fait référence à l'épouse de l'héritier du trône de France, le dauphin.
Mais lequel dauphin? Tous les rois de France ont eu un dauphin.
Oui, alors...
Lequel?
Ben le premier, prenons le premier.
Mais oui, c'est cette même rigueur, ce goût de l'investigation poussée qui permettra à Florence Aubenas de devenir grand reporter à Libé, puis au Nouvel Obs, puis au Monde. Elle fait ses armes au Rwanda, au Kosovo, en Algérie, en Afghanistan, en Irak. Elle parcourt le monde en long et en large. Elle s'en forge une vision exhaustive. Elle connaît par exemple chaque spécificité de chaque pays.
pays de chaque région du monde. Pas comme Stéphane, qui par exemple, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam pour lui.
Tout ça, c'est pareil, quoi. C'est l'Indochine.
Quand elle reste en France, ouais, c'est notre vision du journalisme. Quand elle reste en France, Florence couvre les plus grands procès d'assises comme Outreau, où elle sera d'ailleurs une des premières à exprimer des doutes quant à la culpabilité de plusieurs accusés finalement innocentés. En 2009, elle se lance dans un journalisme que je qualifierais de vie ma vie journalisme. Pour rendre compte de la vie des travailleurs précaires, elle prend un congé sans solde, elle s'installe dans une chambre d'étudiant à Caen, s'inscrit au Pôle emploi en cachant évidemment son métier de journaliste et prétend n'avoir qu'un bac littéraire. Pour survivre, très vite, elle se retrouve en fait obligée d'utiliser l'argent que lui a rapporté son précédent livre sur le procès d'Outreau. J'avais mis cette somme de côté, c'était sacré, dit-elle. Je me disais que je n'allais quand même pas acheter une voiture avec l'argent d'Outreau. Ah ben non, décidément, c'est pour ça qu'on aime Florence. Cette intégrité qu'on ne peut jamais prendre en défaut, bah, je peux vous dire qu'ils sont nombreux, ceux qui n'auraient pas vu le mal à s'acheter une bagnole avec les droits d'auteur d'un bouquin sur Outreau. Comme quelqu'un que je connais qui a dit un jour, une fois en concession Porsche, l'argent n'a plus d'odeur. Après avoir enchaîné les petits boulots, Florence travaille comme femme de ménage sur les ferries et au quai de Ouistreham. Ça donnera le livre Quai de Ouistreham, qui sera un succès de librairie. Comment se fait-il que personne ne l'ait reconnue, me direz-vous? Ben après tout, on est après sa médiatisation de 2005. Hein. Elle raconte, j'ai juste organisé ma disparition en annonçant que j'allais écrire un livre sur le Maroc. Mon seul souci était de me rendre méconnaissable puisque je ne voulais pas changer de nom ni mes papiers. Je suis devenue blonde, les cheveux tirés en arrière et j'ai mis des lunettes. Des amis qui m'ont vu la veille de mon départ m'ont dit, tu es bien mieux comme ça. Tu vois quand tu veux. Sympa des amis comme ça. Le plus dur, c'est de tenir le mensonge sur la durée. Plus le temps passait, plus cela se rapprochait du journal intime. Au bout d'un mois, on lâche prise. Je n'étais plus quelqu'un qui surplombe, mais quelqu'un qui a perdu le contrôle et tente de surnager. Chaque jour, épuisée par le balai et la serpillière, Florence redoute d'être démasquée et de passer, je cite, pour bécassine chez les pauvres. Mais personne ne la démasquera et le livre sera un témoignage très fort. Un autre livre aurait dû suivre, un livre sur l'immersion en banlieue, sauf que là, elle sèche, elle n'y arrive pas. Au bout d'un an et demi, elle lâche prise et renonce à ce projet qui l'avait amenée à vivre dans une tour HLM de Nanterre, dans la cité du Pablo. En 2018, elle s'invite sur les ronds-points à la rencontre des Gilets jaunes. Elle en fait un carnet de bord pour le journal Le Monde. Et plus récemment encore, elle s'est intéressée à un fait divers dont tout le monde se foutait. Le meurtre d'une guichetière de La Poste. Ça donnera le livre L'Inconnu de La Poste, livre acclamé de tous, sauf de Christophe Ondelat qui dira « Eh oh ! Est-ce que je vais en Irak, moi ?» Bref, Florence Aubenas, vous l'avez compris, c'est une grande, grand reporter qui fait passer son confort et même sa vie après son métier. À l'issue de ce portrait, apparemment beaucoup de réactions hein, au 39-21 pour dire que c'est un scandale qu'une journaliste aussi exceptionnelle que Florence Aubenas gagne moins que Stéphane Bern et Mathieu Noël. Écoutez, je comprends votre réaction, même au sein de notre propre équipe, certains nous ont déjà fait cette réflexion, mais je crois qu'il faut savoir aussi le travail qu'il y a derrière la prestation qu'on facture chaque après-midi avec Stéphane. On va peut-être pas en Irak, ni à Ouistreham, mais on propose vraiment une co-animation au cordeau, et une co-animation au cordeau, ça implique un perfectionnisme de chaque instant qui, je suis désolé, a un prix.
Bonjour Isabelle.
Quand je pense que ce que vous devez être payé pour faire ça, bonjour Isabelle.
Oh, on est de la même trempe que Florence Aubenas.
On met surtout beaucoup d'autodérision, oui, et c'est tant mieux.
Heureusement.
Merci Mathieu, c'était 100% vrai, non?
Oui, sauf Patrick Bruel. Hein, il a vraiment chanté pour Florence Aubenas, mais il n'a pas chanté à Bibi Halil pour effrayer les terroristes.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces grands reporters qui ont marqué l'histoire du journalisme.
Pour retrouver Stéphane, ceux qui n'ont pas encore marqué l'histoire du journalisme, mais c'est une question de temps, il nous éclaire sur notre quotidien en remontant aux origines. Aux origines de la Poutargue aujourd'hui, Olivier Pouls.
Oui, produit magnifique, notamment de la Méditerranée, spécialité de la ville de Martigues.
C'est très fort en poisson, il faut quand même aimer. Hein.
C'est de l'iode concentré. Shoot d'iode.
Le mot de la fin, un shoot de culture avec vous.
Si vous avez des amis qui partent pour leur lune de miel, eh bien vous allez pouvoir leur expliquer d'où ça vient. Et ça les fera certainement partir encore plus vite.
C'est vrai? Oui. C'est une jolie histoire?
Oui, vous allez voir. Je ménage
vos effets. Oui. Les origines d'un objet ou d'une invention qui fait notre quotidien ou parfois qui ne fait pas notre quotidien parce que ça a foiré. Oui. C'est votre thème aujourd'hui. David, vous nous parlez de l'aérotrain.
Tout à fait.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, dans cette dernière demi-heure, vous le savez, c'est aussi l'histoire des inventions qui font notre quotidien ou qui ne font pas notre quotidien parce que ça a foiré quelque part. David Castello-Lopez, aujourd'hui, vous nous parlez de l'aérotrain.
Oui,
C'est vrai que l'écrasante majorité des chroniques que j'ai faites cette année, c'était des histoires de réussite. Ouais. L'histoire de gens qui se sont dit, tiens, il y a un problème avec ce truc, si j'inventais un nouveau truc pour régler ce problème. Et hop, le nouveau truc en question marque l'histoire de l'humanité. Mmh. L'inventeur des pailles coudées, par exemple, qui voulait offrir une façon à sa petite fille de pouvoir boire son milkshake sans avoir à se lever sur son tabouret. La venteuse des essuie-glaces, qui a eu l'idée en voyant un chauffeur de bus sortir de son bus toutes les 5 minutes pour essuyer son pare-brise. Mais aujourd'hui, donc, je vous parle d'un échec, d'une invention qui devait révolutionner les transports et qui n'a rien révolutionné du tout. Et cette invention, c'est donc l'aérotrain. L'aérotrain, c'est l'ancêtre du TGV. C'est une sorte d'avion à réaction sans ailes qui, au lieu de se déplacer dans les airs, se déplaçait au sol sur un monorail en béton. Et c'était l'invention d'un ingénieur polytechnicien français qui s'appelait Jean Bertin et qui avait l'air infiniment sympa. Jean Bertin, je pense en partie parce qu'il parlait de façon très chatière, mais en roulant certains airs, ce qui est quand même super charmant. Écoutez-le dans cette interview sur l'aérotrain en 1965. Il y a un journaliste qui vient de lui demander à quelle vitesse pourra aller l'aérotrain.
Entre 200 et 400 km à l'heure, c'est-à-dire des vitesses qui ont déjà été obtenues, bien sûr, avec des véhicules à roues, mais en exploit isolé et non pas en trafic de tous les jours.
C'est trop sympa, ah non ouais, on a envie d'être amis avec lui. Là. Voilà. Et la grande invention dans l'aérotrain, c'est que c'était un train qui se déplaçait au sol, mais sans toucher le sol. Il y avait une turbine qui actionnait un ventilateur qui créait un coussin d'air de quelques millimètres sous le train. Et comme il touchait pas le sol, il y avait beaucoup moins de friction qu'avec un véhicule à roues. Et donc, il pouvait aller vachement plus vite. Jean, il a fait plusieurs prototypes de suite à partir de la fin des années 50. Puis, il a montré ça à Pompidou, qui a dit, non, mais banco, tout de suite, quoi. Et à la fin des années 60, l'aérotrain, ça allait être le transport du futur. Le gouvernement Pompidou, il a autorisé la construction d'un tronçon de voie d'aérotrain en taille réelle de 18 km dans le Loiret, à côté d'Orléans, pour faire des essais. Et ça marchait super bien. En 1974, l'aérotrain, il a pulvérisé le record du monde de vitesse pour un engin guidé au sol avec 422 km heure. Et en fait, c'était bon. Tout le monde était convaincu. Et la même année, Jean Bertin, il a signé avec l'État un contrat pour la réalisation d'une ligne d'aérotrain exploitable entre Cergy et le quartier de la Défense à Paris. C'était signé, c'était bon. Sauf que Giscard est arrivé au pouvoir.
Il aimait pas l'aérotrain.
Et Giscard, il aimait pas l'aérotrain. Et donc, il a rompu le contrat. Alors, pourquoi est-ce qu'il a rompu le contrat?
Pourquoi il aimait pas
l'aérotrain? Deux hypothèses. Il y a une hypothèse qui dit, bon, ça se comprend, c'était une bonne idée de tuer l'aérotrain. Et une autre hypothèse qui dit, c'était politique. Alors d'abord, l'hypothèse, ça se comprend. L'aérotrain, dans sa version de 1974, il fonctionnait au kérosène. Or, 1974, oui. C'est juste après le premier choc, pétrolier. Et donc, peut-être que Giscard, il s'est dit, il y a peut-être mieux à faire que développer un train qui marche à l'essence, quand même, vu l'époque. Et deuxièmement, c'était quand même un engin qui nécessitait de construire des nouvelles voies partout et qui pouvait pas s'intégrer au chemin existant. Et ça, c'était chiant et cher. Mais je trouve que l'autre explication est quand même vachement plus palpitante, c'est que le développement de l'aérotrain allait à l'encontre des intérêts de la SNCF, qui au même moment était en train de plancher sur le TGV. Et que donc la SNCF aurait fait pression sur Giscard pour qu'il abandonne le projet. Mais c'est une histoire encore plus triste quand on sait que Jean Bertin, il a été complètement miné par le revers de l'aérotrain en 1974 et qu'il est mort l'année suivante, en 1975, d'un cancer du cerveau. Au début des années 90, il était question de faire un musée dans un village du Loiret pour exposer le prototype de l'aérotrain. Mais la veille du transport du prototype, il a brûlé. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que l'incendie n'était pas tout à fait accidentel, qu'on aurait mis le feu à ce prototype d'aérotrain. Alors aujourd'hui, la voie expérimentale de l'aérotrain, elle existe toujours. On peut aller la voir près d'Orléans. C'est 18 km de...
Mais l'aérotrain lui-même, non.
L'aérotrain lui-même, non. Mais cette voie, on peut y aller. Alors, c'est une voie en béton, mais c'est une espèce de viaduc avec rien dessus au milieu de la campagne. C'est assez émouvant à voir. Il y a des militants qui l'utilisent pour afficher leur slogan, vous voyez, pour les gens qui... Et il y a même encore des gens qui espèrent faire renaître l'aérotrain, dont une start-up française qui s'appelle Space Train. Voilà, c'est moi je lis qu'aérotrain, je trouve. Mais aux dernières nouvelles, les affaires de Space Train marchent pas du tout. Ils ont des problèmes avec l'URSSAF, ils payent pas les salaires. Donc c'est, l'échec de l'aérotrain, c'est un échec qui semble être un échec qui est fait pour durer. Voilà.
un échec qui est fait pour durer, ça fait un bon slogan.
Il y a pas au Japon
Il y a le maglev qui fonctionne avec des aimants. Mais c'est voisin, c'est monorail qui touche pas le sol, c'est vrai.
Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Après avoir pris l'aérotrain, maintenant en direction le sud. Pourquoi? Pour déguster la poutargue.
Oui, c'est un produit qui n'est pas forcément très connu. On peut dire poutargue ou boutargue.
Oui.
D'ailleurs,
les deux
termes sont acceptés. Ça fait, je pense, partie de ces quelques dizaines de produits qu'il faut avoir goûté au moins une fois dans sa vie. Alors, on n'est pas obligé de l'aimer, mais je pense que quand on l'aime au-delà de tout, parce que c'est vraiment un produit qui a une particularité, une signature gustative unique. Alors, avant de vous en raconter les origines, on va essayer de décrire ce à quoi ça
ressemble. Alors c'est comme une espèce de petit shoot diode, hein, ça ressemble à des petites poches en général qui sont emballées dans une petite protection en cire d'abeille. Donc on enlève la cire, on récupère la, la poutargue à l'intérieur qui est une texture presque un peu collante et qu'on râpe en général ou qu'on tranche très finement, qu'on peut manger sur du pain, et c'est vraiment, c'est à la fois fin, puissant et iodé. Voilà ce à quoi ça ressemble. Alors que, qu'est-ce que c'est que la poutargue en fait? Eh bien c'est tout simplement une poche d'œufs de mulet qui ont été séchés et salés. Alors la technique du séchage des œufs de mulet c'est très ancien et probablement on consommait déjà des poches d'œufs de mulet dans l'Antiquité puisque c'est un poisson qu'on trouve tout au long de tout au, au pourtour de la Méditerranée. Mais la poutargue telle qu'on la mange aujourd'hui, telle qu'on la connaît notamment en France dans la ville de Martigues, elle fait son apparition au XVIe siècle et il y a d'ailleurs de nombreuses références littéraires comme Gargantua ou Pantagruel qui en consomment sous la plume de Rabelais. Et c'est la ville de Martigues qui s'impose comme la capitale française et pratiquement la seule ville française dans laquelle on en produit. Pourquoi ? Parce que en fait, le mulet est un poisson qui migre entre la mer et entre les eaux douces, et notamment le lac de Berre. Et au moment où le mulet va migrer, qu'il va quitter les eaux douces pour retourner vers la mer pour aller y pondre, ben c'est à ce moment-là qu'il est capturé, les femelles sont pleines d'œufs, on va prélever cette poche d'œufs et qu'on va ensuite nettoyer, saler, et faire sécher, et c'est ce qui donne la poutargue.
Parce que il y a du travail, quoi.
Il y a du travail, mais surtout des mulets.
C'est rare, les mulets.
Des mulets, il y en a plus
les
beaucoup.
Poches, les poches d'œufs de mulets.
Et oui.
Il faut les trouver.
Et donc, il faut les trouver. Et c'est un produit, alors, qui est cher, mais qui n'est pas aussi cher que le caviar. Pour donner un ordre de grandeur, le kilo de poutard coûte autour de 110, 120 euros. Le kilo de caviar, on est à 1500, ouais. 2000, 3000. Donc, c'est quand même moins cher.
Et puis, surtout, je rappelle, on ne mange pas un kilo de poutard.
Ah non, c'est impossible. Non, c'est très salé en même temps.
C'est pas possible. C'est très
quelques
fort.
Grammes.
Voilà. Voilà. Alors, pour la mettre, je veux dire, en cuisine et au mieux de ce qu'elle peut exprimer. Moi, je trouve que la bonne idée, c'est les pâtes à la poutargue. Mmh. Alors, c'est très simple. Il faut, pour 4 personnes, il faut à peine 50 grammes de poutargue. Donc, c'est tout à fait accessible. Donc, l'idée, c'est de prendre des pâtes, des spaghettis, de les cuire dans un grand volume d'eau.
C'est la première fois que je vais réussir à faire une recette, je sais.
Voilà. Vous les égouttez, vous récupérez un tout petit peu de l'eau de cuisson des pâtes, vous faites revenir vos pâtes dans de l'huile d'olive. Vous rajoutez cette eau de cuisson qui va permettre de bien les...
Dans
les,
la poêle.
Dans la poêle, oui, exactement. Ça va permettre de les maintenir bien au chaud et surtout de les rendre non collantes.
Mais il faut les cuire donc peut-être un tout petit peu moins que ce qui est indiqué.
Al dente, normalement.
On a un spécialiste à la
droite. 30 secondes de moins que d'accord. ce qui est indiqué.
Vous allez, pour déconner, bien.
Vous allez râper tout simplement votre poutargue sur les pâtes et bien les enrober. Pour ajouter un petit peu de parmesan, moi j'ajoute un peu de chapelure pour donner le petit côté croustillant. Et puis ben voilà, on sert ça bien chaud. Et on a cette explosion de la poutargue qui arrive en bouche au moment qu'on les mange. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui qu'une poignée de producteurs. Ça se fait toujours de manière artisanale. Je crois qu'il y a moins de 10 producteurs encore aujourd'hui de poutargue en France. On en trouve dans d'autres pays, en Italie, vous parlez tout à l'heure de la Grèce, etc. Il y a d'autres pays qui la produisent. Mais voilà, c'est un mets assez rare, assez exceptionnel et qu'il faut avoir dégusté au moins une fois.
Eh bien, écoute, on a hâte de découvrir. Moi, je crois que j'en ai jamais mangé de la poutargue, mais j'ai.
C'est très bon en rondelles, enfin en petites tranchettes pour l'apéro aussi.
Oui, sur du pain grillé. Ouais, ça se trouve dans des épiceries fines. Ouais. Et je pense même à Paris qu'il y a des boutiques spécialisées dans la poutargue et quelques petits produits dérivés.
Une boutique monoproduit poutargue, à mon avis, quand même, ça va pas chercher très. C'est quand même très niche, hein, comme.
Non.
Mais 100 euros le kilo, c'est pas
c'est
viable.
Oui, c'est un business.
Et donc, merci. Pour l'adresse d'Europe 1, c'est toujours.
pour nous envoyer, mais évidemment, vous faites une belle pub. Voilà. Sûr, ouais. Oui. Merci, Olivier, on retrouve toutes vos recettes.
Ça, c'est du grand reportage.
Sur le site d'Europe1.fr. J'ai Florence Audenac qui dit qu'elle est vraiment épatée par ce reportage. On sent qu'il y a eu une immersion, il y a eu du travail.
Croyez-moi, je me suis mouillé.
Ne pas de vous. Alors, Stéphane, c'est le mot de la fin.
Oui. C'est la saison des mariages, alors au nom d'Historiquement Vôtre, tous nos vœux de bonheur aux futurs mariés, courage pour respecter les gestes barrières en dansant la chenille qui redémarre, et surtout, n'oubliez pas d'enlever le masque pour embrasser la mariée. Bref, l'expression du jour, c'est lune de miel. Pourquoi dit-on lune de miel?
Alors, lune de miel, c'est normalement le premier mois du mariage, mais c'est aussi comme ça qu'on appelle le voyage de noces, la nuit de noces. Alors, d'où vient lune de miel? Je vous pose la question, Stéphane.
Eh bien, de nos amis anglais. D'après beaucoup de linguistes, la formule vient de la traduction pure et simple de honeymoon, littéralement lune de miel. Et difficile de ne pas le penser, car on trouve trace de l'expression en Grande-Bretagne 200 ans avant qu'elle n'apparaisse chez nous. Durant la civilisation babylonienne, comprenée en Mésopotamie du Sud,
en 2000 avant Jésus-Christ, il y aurait une coutume étonnante. Lors d'un mariage, le père de la mariée se devait de fournir à son gendre autant qu'il le pouvait de la bière au miel. Je sens qu'Olivier Pouls a tout à coup des envies de mariage babylonien. Honey, honey, c'est le miel et moon, c'est le mois que durait cette coutume qui était censée augmenter la fertilité. On dit que le houblon fait ce travail. Ce n'est qu'au 19e siècle que les Anglais inventèrent une autre coutume, celle de partir en voyage un mois après la noce. En théorie, c'était pour rendre visite à toutes celles et ceux qui n'avaient pas pu venir au mariage. Ça s'est vite transformé en voyage pour mieux se retrouver à deux, loin de ceux qui avaient assisté à la noce, et puis pour que 9 mois plus tard naisse un héritier. La lune de miel, on le dit dans tous les pays, sauf au Danemark. On dit que c'est les jours de pain blanc. Ça fait pas très envie, non. Surtout dans un pays qui fait très bien le pain aux céréales. En Suède, on appelle cette période les mois des caresses. C'est déjà plus engageant. Concernant le mariage, on ne fera pas plus pertinent qu'Oscar Wilde qui disait « Le mariage est la cause principale de divorce ». Bon, difficile de dire le contraire.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Beaucoup de messages au standard pour nous dire, quand même, consacrer toute une émission aux grandes journalistes de l'histoire et ne pas dire un mot de Sophie d'avant. Vous avez raison, Stéphane.
Quiche.
Merci. Sinon, laquelle de nos grandes reporters vous a le plus épaté, Stéphane? André Violis, Martha Gellhorn ou Florence Aubenas?
Écoutez, Alexis Génie parle merveilleusement bien de Martha Gellhorn. J'ai très envie de lire l'œuvre de Martha Gellhorn.
C'était passionnant. Qui croisons-nous demain dans Historiquement Vôtre, Stéphane?
Eh bien, demain, à l'occasion du premier match des Bleus dans l'Euro, on réunit des as de la passe.
Oh là 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 là, depuis le temps que j'attends ça!
De voir un match des Bleus?
Non, de vous entendre parler foot.
Oui, je vous comprends. D'autant que je n'ai pas choisi n'importe qui. Je vous raconterai le destin fou d'un lord anglais devenu l'un des premiers joueurs de foot de l'histoire, Arthur Kinnaird. Puis le premier punk du foot, ou plutôt le cinquième Beatle, comme on le surnommait, George Best.
Et quant à moi, je dresserai le portrait de Karim Benzema, le revenant. N'oubliez pas vos protèges tibias, Stéphane. À demain, les amis.
À demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.